Vous écoutez, on lit pour vous.
Donner des ailes, un texte de Patrick Lagacé, paru le 1er mars 2026 dans la presse. Quand Simon Moffat Fréchette est arrivé en secondaire 1, il était baveux et confrontant, mais aussi parallèlement brillant, attachant. La turbulence intelligente, si vous voulez. Le genre d'élève, donc, qui peut venir à bout de la patience des profs de l'école. Je le cite. J'étais arrogant. Je cherchais de l'attention. Je manquais de respect. J'intervenais quand c'était pas le temps. C'était il y a 22 ans. Tout aurait pu déraper. En fait, tout aurait dû déraper pour Simon. Ce talent pour faire suer, doublé d'un manque de persévérance dans les matières, tout cela aurait pu, aurait dû l'envoyer dans des sentiers de vie très mal éclairés. Surtout que, sous ce comportement turbulent, il y avait quelque chose de plus fondamentalement croche dans sa vie. À la maison, comment dire, ça n'allait pas. Simon m'a raconté la bande-annonce de sa vie d'enfant. Il ne veut pas nécessairement que tous les rebondissements de ce film triste soient exposés dans la presse. Mais résumons ainsi son enfance, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il traînait son mal de vivre, sa colère, son déficit d'estime de soi à l'école. Et ça sortait tout croche. Quelqu'un, à l'école secondaire du Tournesol de Windsor, a vu que, caché derrière le Simon confrontant, il y avait un autre enfant qui gagnait à être connu, un enfant fragile et sensible, si on était assez patient pour le découvrir. Quelqu'un qui a cru en Simon, qui ne l'a jamais lâché. Guylaine Cloutier, une de ses profs de secondaire 1. Simon n'a rien oublié de Guylaine. Il a tout gardé. Rien oublié des mots d'encouragement de cette prof de science tout au long de son secondaire 1. Des mots d'encouragement de Guylaine quand, après avoir fini son secondaire sans diplôme, elle venait le visiter à la boutique Le Château, où il travaillait. Tout gardé, les cartes de fête, les lettres d'encouragement de Guylaine, tout au long de son secondaire, de son cégep et de son université. Quelque chose s'est scellé entre Simon et Guylaine quand, lors d'une expo science, l'enseignante a compris bien des choses sur la vie de cet élève particulier, sur les épines de la rose qu'il était, si je peux m'exprimer ainsi. Après le secondaire 1, Guylaine n'était plus la prof de Simon. Mais, se souvient-il, elle a travaillé en coulisses pour me maintenir à l'école, devenant son ambassadrice ad hoc, dans l'école, auprès des profs et des directions. Elle leur disait, se souvient-il, « Simon en vaut la peine. Simon a encore la carte de fête que Guylaine lui a donnée en 2007 pour ses 17 ans, le 19 décembre. Beaucoup d'amour et de paix pour l'année 2008, sans oublier bien sûr du succès dans tes études. Comme le disent les vieilles matantes et les profs. Et à la fin de son secondaire 5, ce n'est pas à un ami que Simon a demandé d'écrire une description dans l'album définissant, c'est à Guylaine. Il a encore l'album et les mots de Guylaine qui bordent sa photo. Certains entrent dans notre vie et ne font que passer. D'autres s'y attardent et laissent des empreintes qui nous transforment à jamais. Tu fais partie de ces gens, mon cher Simon, créatif, vif d'esprit, franc, relationnel et sensible, pour ne nommer qu'une infime fraction de ce qui te rend unique. Quand Simon a quitté le Tournesol, Après son secondaire 5, Guylaine Cloutier a gardé le lien. Elle l'a poussé à finir son secondaire 5. Il ne lui manquait qu'un cours d'anglais. Elle allait le voir à la boutique. Ils allaient dîner. Elle l'encourageait. Se souvenait de ses anniversaires. Les soulignait. Guylaine lui disait « Quand est-ce que tu vas au cégep ?» Pour Simon, c'était comme lui demander « Quand est-ce que tu vas escalader l'Everest en gougoune ?» C'était pour les autres, le cégep. Sauf qu'il s'y est inscrit un an et demi après la fin de son secondaire. Surprise, Simon avait d'excellentes notes. Et une fois par session, il dînait avec Guylaine et lui présentait ses bulletins. La tradition s'est poursuivie à l'université. Il dînait une fois par session et Simon présentait à Guylaine ses résultats en droit. Elle était fière de moi. Et ça me faisait tellement plaisir. Ça me rendait fière de moi. Ça me donnait des ailes. En avril 2015, quand Simon a obtenu son bac en droit, Guylaine lui a donné une autre carte. C'est fou ce que la vie nous réserve. Te voilà bachelier en droit. Ce succès bien mérité résulte de ta volonté, de tes efforts et de ta persévérance. Je suis très fière de tes accomplissements. Et en juillet 2017, quand Simon a prêté serment comme avocat, qui était là? Guylaine, bien sûr. Guylaine, elle, avait des réticences à me parler. Elle n'est pas du genre à se mettre de l'avant. Elle ne voulait pas d'une chronique qui en ferait une sorte d'héroïne. Elle m'a dit qu'elle n'avait fait que sa job de prof. Je lui ai répondu, étonnée, qu'elle est allée bien au-delà de sa job de prof. Je lui ai cité les souvenirs de Simon, tout ce que je viens de vous décrire, et même plus. Il a fallu que j'insiste, que je la rassure, pour qu'elle accepte de participer à cette chronique sur le merveilleux métier de prof, sur les profs merveilleux qui sont, souvent, bien plus que des profs. Après notre entrevue, plein de souvenirs sont remontés à la surface et Guylaine m'en a envoyé par texto. Comment, par exemple, à chaque 19 décembre, même quand Simon n'était plus son élève, elle l'appelait à l'intercom pour le convoquer et lui dire simplement « Bonne fête et bonnes vacances de Noël ». Le vendredi 19 décembre 2025, c'était le jour de l'anniversaire de Simon, 35 ans. C'était aussi le dernier jour d'enseignement de Guylaine Cloutier à l'école du Tournesol. Et qui était là? Simon. Simon qui s'est glissé dans la classe de Guylaine avec la connivence des profs de l'école et qui s'est assis avec les élèves pour souligner la fin de ses 35 ans de carrière. Il a fait filmer la scène. Le visage de Guylaine s'illumine quand elle l'aperçoit parmi ses élèves, lui qui est devenu son ami au fil des décennies. Il y a, en ce moment même, tout plein de profs au Québec qui sont comme Guylaine, souvent sans le savoir, des phares qui illuminent la nuit de nos enfants. C'était « Donner des ailes », un texte de Patrick Lagacé, paru le 1er mars 2026 dans la presse.
Tirer des leçons des feux de forêt de 2023. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 18 janvier 2026 dans Le Devoir. L'été 2023 restera dans les mémoires pour de bien mauvaises raisons dans le nord du Québec, alors que des feux de forêt sans précédent ont forcé l'évacuation de plusieurs municipalités dans des conditions souvent difficiles. Près de 2 ans plus tard, des chercheurs en santé publique tentent de tirer des leçons de la catastrophe. Dès la fin de l'été 2023, qui a vu partir en fumée 45 000 km² de forêt, des chercheurs de l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, ont rencontré des intervenants de première ligne impliqués dans l'évacuation de localités éloignées comme Chapais, Lebel-sur-Quevillon, Chibougamau ou Radisson. On désirait vraiment avoir une perspective à chaud de ce qui s'était passé, les bons coups, les mauvais coups et ce qu'il y avait à améliorer, raconte Stéphane Perron, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à l'INSPQ. Les entrevues ont été menées avec des dirigeants municipaux, des membres des services de santé et des représentants d'organismes comme la Croix-Rouge. En compagnie de ses collègues Julien Michaud-Tétrault, Emmanuel Bouchard-Bastien et Marie-Audrey Peel, M. Perron a publié ses conclusions dans la revue savante « Disaster Prevention and Management » fin 2025. Leur constat. La communication avec les citoyens est primordiale dans la gestion de telles situations catastrophiques et les évacuations doivent être mieux planifiées. Contrairement à l'Ouest canadien, par exemple, le Québec était peu habitué à gérer des évacuations d'une telle ampleur face à des incendies de forêt. Pour être transparent, je crois qu'en 2023, on a quand même été surpris par l'ampleur des feux. C'est normal quand vous n'avez jamais fait face à une telle situation. Il fallait rapidement en tirer des leçons pour se préparer pour la prochaine fois, estime Stéphane Perron. Pas égaux devant les feux. L'étude qualitative retient notamment l'attention particulière qui doit être portée aux populations vulnérables lors des évacuations, en premier lieu les personnes âgées malades ou en perte cognitive. L'article relate par exemple le témoignage d'un travailleur du réseau de la santé dont le père, résident d'un centre de soins de longue durée, est décédé 3 semaines après les évacuations. Après avoir passé 12 heures dans un fauteuil roulant en route vers le Saguenay, il était complètement déshydraté et inconscient. Les personnes qui ont des troubles cognitifs ont besoin d'être avec des personnes familières dans des environnements bien contrôlés. Il faut planifier leurs soins médicaux et le fait qu'ils vont être désorganisés si on les change de milieu, insiste Stéphane Perron. Le transport sera aussi complexe. Il faut penser à l'hydratation, la nourriture, aux arrêts pour leur permettre de faire leurs besoins. D'autres catégories sont également à surveiller, notamment les personnes défavorisées économiquement, souvent condamnées à être hébergées dans des refuges. Dans la vie, on n'est jamais vraiment égaux. Mais malheureusement, devant la catastrophe, c'est encore pire. Ces vulnérabilités sont vraiment exacerbées en cas de danger, souligne M. Perron. Une meilleure communication. Devant la vitesse fulgurante de propagation du brasier, les routes du nord du Québec ont bien souvent été congestionnées par des résidents tentant de trouver refuge dans le sud de la province. Des bouchons qui sont venus compliquer encore davantage les évacuations. Dans le nord, il n'y a souvent pas 10 routes pour quitter une ville. Ça devient rapidement très complexe si les évacuations ne sont pas planifiées à l'avance, explique M. Perron, qui recommande notamment d'effectuer des simulations afin d'améliorer la préparation des autorités et du personnel soignant. Une bonne communication avec les citoyens est également essentielle, non seulement au moment de l'évacuation, mais aussi dans les jours suivants, pour préparer le retour à la normale. Ça prend une communication multimodale en tout temps pour répondre aux préoccupations des gens et cibler de façon très claire les enjeux auxquels ils font face, illustre le chercheur. Autant de leçons à tirer d'événements parfois traumatiques qui, avec le dérèglement climatique, sont appelés à se multiplier. C'était « Tirer des leçons des feux de forêt de 2023 », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 18 janvier 2026 dans Le Devoir.
Révolution culturelle acadienne, une nouvelle vague qui change tout. Un texte de Nicolas Jean, directeur général Acadie et Francophonie, publié le 9 janvier 2026 dans le courrier de la Nouvelle-Écosse. Depuis quelques années, on le sait, quelque chose de nouveau se passe dans la culture acadienne. Les artistes sont en première ligne de ce mouvement. Ce n'est pas un simple renouveau artistique ni un phénomène de mode. Ce que l'on observe dans la musique, l'humour, le drag et les arts populaires ressemble à un mouvement plus profond, un changement de paradigme sur ce que signifie être acadien aujourd'hui. Des artistes comme les Hey Babies, Petit Béliveau, Lisa Leblanc, Samy Landry et une constellation d'autres incarnent une nouvelle esthétique, une nouvelle identité assumée, qui rompt avec les codes dominants du passé. Lors de l'ouverture de la saison 6 de Canada's Drag Race, nous avons vécu un grand moment d'affirmation identitaire. Samy Landry s'est présenté en mettant de l'avant son accent acadien et en affirmant que la francophonie canadienne est bien plus large que le Québec. Ce n'est pas une anecdote, il s'agit d'un acte fondateur. Dans ce mouvement, l'accent, la langue et les références locales ne sont plus un handicap à camoufler. Ils deviennent le cœur même du geste artistique. Des chansons parlent de banjo, de village, d'épicerie, de pêche, de vie rurale, sans exotisme ou nostalgie forcée. Le vernaculaire n'est plus un folklore figé, c'est une manière de vivre et de créer. Cette esthétique du quotidien brise un tabou ancien. On peut être pleinement acadien, rural, chaotique, drôle, et à la fois moderne, pertinent, puissant. On le voit avec des artistes comme Lisa Leblanc qui brillent sur la scène internationale, bien au-delà de l'Acadie. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Une des forces de ce mouvement est sa capacité à jouer avec l'identité plutôt qu'à la sacraliser. C'est pas l'Acadie héroïque, monumentale, tragique des récits historiques. C'est une Acadie imparfaite, ludique, audacieuse. Le rire devient un outil de libération. On rit des stéréotypes, on rit des complexes, on rit de soi-même et on rit ensemble. Ce n'est pas une fuite vers l'avant, mais une véritable appropriation symbolique. Musicalement, scéniquement ou sur une toile, tout se mélange. Des instruments traditionnels, du drag, du folklore, du rap, du rock, de l'électro, du street art. L'identité n'est plus une pureté à préserver, mais un matériau à réinventer, à métisser. On est très proche de la pensée d'Édouard Glissant. La culture existe dans la relation, pas dans l'isolement. Cette génération crée donc une Acadie à son image, créolisée, hybride, poreuse aux influences d'ici et d'ailleurs. Il faut aussi noter que l'apparition de figures queer et des dragues dans l'espace culturel acadien est un tournant majeur. À travers l'humour, la provocation et la célébration, l'Acadie s'ouvre à d'autres imaginaires. Samy Landry n'est pas un épiphénomène, c'est un symbole. Le fait qu'un drag puisse mobiliser des récits acadiens avec un succès populaire signifie que l'identité n'appartient plus à un seul modèle. L'Acadie cesse d'être définie uniquement par une lignée familiale, religieuse ou traditionnelle. Elle devient plurielle, inclusive, elle donne l'exemple. Ce qui semblait trop local devient universel. Le complexe d'infériorité linguistique se renverse. La langue n'est plus une frontière à défendre, mais là aussi un terreau fertile propice à la création. Ces artistes ont pour point commun de ne pas demander la permission d'exister. Ils existent avec élan et avec intention surtout, dans le cadre d'une démarche construite, réfléchie. Ce n'est pas la lutte pour la survie, mais la célébration d'un présent et surtout la construction d'un futur. Peut-on alors parler de révolution culturelle ? Selon le sociologue et philosophe Edgar Morin, une révolution culturelle est un bouleversement des visions du monde, des valeurs et des modes de vie qui transforment la manière dont une société se pense et se représente. Tous ces artistes redéfinissent l'Acadie selon moi. Moins solennelle, moins sacrée, mais plus ludique, hybride, inclusive, connectée aussi. On assiste à un bousculement des imaginaires. Ils ouvrent un espace où l'on peut être acadien, respectueux de ses origines, rural, mais aussi numérique, moderne, fier de sa francophonie, tout en étant chaotiquement plurilingue. Ce n'est pas une rupture avec l'héritage, c'est une réinvention. L'Acadie n'est plus seulement une mémoire, c'est une puissance créative, un moteur. L'ancienne garde l'a bien compris et nous avons vu, au cours des dernières années, des passages de flambeaux symboliques, notamment au CMA 2024. Rappelez-vous les Hey Babies ou Sylvie Boulian sur scène avec 1755 ou encore Vicky Devaux avec Ronald Bourgeois. Il est essentiel de comprendre que ce à quoi nous assistons n'est pas seulement un renouveau, mais une révolution. Cette nouvelle génération a besoin de notre soutien à tous. Elle doit se sentir portée par la communauté acadienne dans son ensemble et par des gestes concrets, que ce soit en achetant un disque, une œuvre ou en participant à un concert. La révolution en cours a un grand pouvoir si on lui laisse tout l'espace nécessaire pour se développer, celui de concilier tradition et modernité, celui de créer un pont entre des générations qui peuvent avoir de la difficulté à se parler. Le renforcement et la survie de l'Acadie en dépendent. En parlant de pont, on m'a partagé il y a peu de temps cette citation d'Octavio Paz, prix Nobel de littérature en 1990, tout à fait appropriée. Entre la tradition et la modernité, il y a un pont. Quand ils sont mutuellement isolés, la tradition stagne et la modernité s'évapore. Quand ils sont joints, la modernité insuffle une nouvelle vie dans la tradition et la tradition répond en fournissant profondeur et gravité. Alors, vive l'Acadie, vive la Révolution. C'était Révolution culturelle acadienne, une nouvelle vague qui change tout, un texte de Nicolas Jean, directeur général, Acadie et francophonie, publié le 9 janvier 2026 dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Splendeur et misère d'un fleuron énergétique. En sous-titre, la crise du verglas est un miroir riche en enseignements pour penser la transition énergétique. Un texte de Louis-Maude Rioux-Soucy, publié dans Le Devoir du 23 décembre 2025. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais il peut contribuer à forger une impression de contrôle. En 2022, au plus fort de la crise énergétique en France, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a troqué la cravate pour le col roulé, imité par le président Macron. Ce symbole de sobriété, les Québécois en connaissent une variante puissante, gracieuseté d'André Caillé. En 1998, à la faveur de la crise du verglas qui a mis le réseau d'Hydro-Québec à genoux, il en a fait le porte-étendard de notre résistance énergétique. Ce fut d'abord un geste spontané. Débarqué en catastrophe à Saint-Hyacinthe, mal préparé pour le froid mordant, le PDG d'Hydro-Québec s'est fait offrir un col roulé par son chauffeur. Le port du vêtement, frappé du logo d'Hydro, est vite devenu un acte de solidarité avec les travailleurs pour se transformer, au terme des 35 jours que dura cette crise, en symbole de la résilience de notre fleuron énergétique. Les premières gouttes commencent à tomber le 5 janvier. Le 9 janvier, le Québec est paralysé. Montréal n'est plus alimenté que par un seul fil. La métropole est sur le point de manquer d'eau, mais elle est aussi impossible à évacuer car tous ses ponts sont impraticables. Quelque 3,5 millions de Québécois sont privés de courant. Aux côtés d'un premier ministre, Lucien Bouchard, au sommet de ses moyens, le patron d'Hydro-Québec affiche une assurance rassurante. En son fort intérieur, il en est à prier pour que la pluie cesse. Le ciel s'éclaircira enfin. Sur le terrain, c'est la désolation. 24 000 poteaux de bois, 900 pylônes et 3 000 km de lignes électriques céderont sous le poids des quelques 100 mm de verglas. On pleurera 30 morts. Dans le triangle noir, les jours de paralysie deviennent des semaines. Le Québec découvre la vulnérabilité d'un réseau qu'il ne soupçonnait pas. La population se serre les coudes, rassurée par le tandem que forment Bouchard et Caillé, le premier en père de la nation qui sait où il va, le second en lumière scientifique qui sait comment y aller. Cet état de grâce ne résistera pas à la longue reconstruction qui suivra, encore moins aux changements prescrits par la commission Nicolet. Marqué au fer rouge par la crise, André Caillé poussera les travaux jusqu'à devenir la bête noire des écologistes et des groupes citoyens. Ceux-ci ne lui pardonneront ni la précipitation entourant la ligne RTL des cantons, ni la centrale thermique du Suroît sur laquelle Québec finira par mettre une croix. Cet immense chantier a des parentés avec celui que pilote l'actuel PDG d'Hydro dans un Québec qui s'est donné pour objectif de devenir le premier État carboneutre en Amérique du Nord d'ici 2050. On parle tout de même d'investissements de 155 à 185 milliards de dollars d'ici 2035. Ça ne pèse pas que sur nos finances publiques. Le paysage aussi va changer, a prévenu Claudine Bouchard. Citation: il va y avoir plus d'éoliennes, plus de pylônes, plus de lignes de transport. Fin de citation. Avec tout ce que cela comporte de risques démultipliés, la tempête de 1998 a été qualifiée d'historique. Les risques qu'elle se reproduise à l'identique sont faibles. Les changements climatiques annoncent toutefois une intensification et un rapprochement des épisodes de verglas qui vont mettre le réseau à l'épreuve. Si plusieurs des leçons de la Commission Nicolet ont été tirées et mises en place, autant sur les plans techniques, politiques ou logistiques, des bonds de géants ont été franchis, le réseau reste vulnérable. Hydro-Québec a dû lancer deux alertes de défaillance de puissance les 3 et 5 décembre. Le service aux résidents n'est pas jugé à la hauteur dans 1800 zones du territoire. En progression ces dernières années, les pannes restent une bête noire que la Société d'État s'est engagée à réduire de 35 % d'ici 10 ans. Le défi est d'autant plus grand qu'au fur et à mesure qu'on élargira l'électrification de nos activités quotidiennes, condition essentielle à l'abandon des énergies fossiles, notre intolérance aux pannes va grimper. Sans compter le fait que près de la moitié de l'énergie totale produite au Québec est perdue et n'apporte aucune valeur à l'économie, selon le baromètre de Prospera. Avant de songer à produire plus, il faudrait s'attaquer de front à la désinvolture et au gaspillage énergétique qui fleurissent au Québec. Mais ce n'est pas gagné avec un gouvernement qui mise sur un plafonnement rigide des tarifs et valorise la distribution de blocs aux industriels, au point de pousser l'ex-PDG Sophie Brochu à s'inquiéter de voir le Québec devenir le dolorama de l'électricité. Ce l'est encore moins avec une régie de l'énergie au pouvoir rétréci par le gouvernement Legault. Les Québécois n'ont pas oublié les leçons de la crise du verglas, ni celles de la reconstruction qui a suivi. Il faudra donc se lever de bonne heure pour leur imposer une transition énergétique qui en ferait fi. Fin de ce texte de Louise Maud Rio-Soucy, titré « Splendeur et misère d'un fleuron énergétique », publié en éditorial du Devoir du 23 décembre 2025.